Fréquence protestante. Espérance féminine. Carole Gallois.
Bonjour à tous, bienvenue pour la 24e émission de Espérance Féminine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une addiction particulière qui toucherait 2% de la population. Je parle de la dépendance affective. Elle peut être associée à différents domaines, dont la relation sentimentale ou encore au travail, un domaine moins connu. Avec nous pour en parler, Annick Rosas, psychopraticienne spécialiste en thérapie. Bonjour Annick, comment allez-vous ?
Bonjour Carole, très bien, merci.
Merci beaucoup Annick Rosas pour avoir accepté l'invitation. Merci aux auditeurs qui sont avec nous. Et pour introduire notre interview, je vous propose, Annick, et à vous chers auditeurs, d'écouter ce témoignage et on se retrouve juste après.
Comment vous reveniez ensuite ? Qu'est-ce qui se passait ?
J'étais toujours prête à pardonner et je revenais toujours parce que les rares moments de bonheur que j'ai vécu avec lui, voilà, primaient sur le reste, malgré que ça me faisait souffrir, pleurer. Et j'en avais besoin. J'avais besoin de ces gestes d'amour, cette présence qu'il avait auprès de moi. Ça effaçait un peu le reste, on va dire. Et voilà, il savait vraiment y faire pour à chaque fois me rattraper dans ses filets.
C'est-à-dire qu'il revenait vers vous à chaque dispute, il revenait vers vous.
Oui, il revenait vers moi, comme si de rien n'était, faisant abstraction complète des problèmes qu'on venait de rencontrer, de la dispute qu'on venait d'avoir.
On vient d'écouter le témoignage de Laure, souffrant de dépendance affective. Vous l'avez entendu, comme moi, parler de son ancien partenaire qui la faisait pleurer et dont elle revenait toujours, dont le profil semble ressembler à celui du pervers narcissique. Que pensez-vous de ce témoignage, Annick ?
Ah ben c'est un témoignage qui est très, j'allais dire, poignant. Moi, je vois beaucoup de personnes qui témoignent de cette souffrance dans mon cabinet. Oui. Et effectivement, le pervers narcissique s'attaque, c'est un prédateur, hein, c'est une pathologie, et il s'attaque souvent, il trouve une proie très facile à abuser dans la personnalité des dépendants affectifs.
Ah, donc les pervers narcissiques sont naturellement attirés par les personnes souffrant de dépendance affective.
Oui, parce qu'ils savent que ça sera la proie facile à abuser. Et que la personne, puisqu'elle est dépendante affective, par définition, elle ne va pas s'enfuir. Et du coup, il l'aura toujours sous la main.
Ce qui l'arrange, lui, qui aime être omnipotent au niveau du contrôle de la personne. Donc finalement, ces deux pathologies se nourrissent l'une et l'autre.
Complètement. Et le truc, c'est qu'ils ont leur point commun quand même, c'est l'insécurité affective. Tous les deux ont des blessures. Mais le dépendant affectif, il a une estime de lui qui est très fragile, il ne s'aime pas. Et donc, dès qu'on lui donne des marques de reconnaissance ou qu'il a l'impression d'être avec quelqu'un qui le dirige, ça peut lui plaire.
Ça lui donne un côté rassurant.
Voilà, complètement. Et le pervers narcissique, lui, donc je disais tout à l'heure, c'est vraiment une pathologie, la perversion, cette perversion. Ouais. Et il construit une image de lui qui est fictive, une sorte de mythologie autour de sa personnalité.
Un culte.
Voilà. Et donc, il s'attire parce qu'il y en a un qui cherche une proie abusée et l'autre, le dépendant affectif, il cherche un peu un sauveur, un guide. Et c'est vrai que le pervers narcissique sait très bien incarner ce rôle du guide, du conseiller, il a beaucoup de charisme, hein, surtout au début de la relation.
Donc indépendant affectif.
Il vient combler les manques du dépendant affectif.
Donc indépendant affectif et un pervers narcissique forment donc une relation toxique.
Complètement, oui.
Mais une relation qui peut durer longtemps.
Oui, si la personne dépendante affective n'a pas une...
S'ils ne se rendent pas compte finalement qu'ils ont un problème tous les deux.
Ça peut durer très longtemps parce que tous les deux, ils ont cette blessure, cette insécurité affective. Donc ils vont se comme on voit dans le témoignage, comme on a entendu tout à l'heure dans le témoignage, la personne pleure, la dépendante affective, elle va pleurer, se disputer, partir, mais elle revient toujours. Et lui, il est très habile pour trouver comment la reprendre, comment la reconquérir. Par exemple, il va faire abstraction des problèmes, des disputes, il va faire comme si de rien n'était, ou il arrive toujours à la reséduire. Mais évidemment, c'est pas, ça peut ne pas être définitif si la dépendance. Lui se remettra, le pervers. Alors, je sais pas pourquoi je dis il et elle, on sait pas, ça peut être aussi le contraire.
Oui, oui, oui.
Le pervers narcissique, il se remettra pas en question de toute façon.
Donc, c'est le dépendant affectif qui ne peut que solutionner la relation. Et
à
qui
mon
peut
avis,
comprendre que c'est pas une bonne relation.
Voilà, à mon avis, oui, c'est lui qui doit avoir une prise de conscience.
Et qu'est-ce que la dépendance affective pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est et qui se posent la question, pour poser les termes?
Oui, alors la dépendance affective, elle se voit par... Il y a plusieurs signes de dépendance affective qui peut laisser supposer qu'une personne est dépendante affective. En tout cas, en fait, c'est ce qu'on dit, dépendante affective, c'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un qui est dans la quête permanente de marques de reconnaissance de ses proches, qui teste sans cesse les sentiments des autres, qui a envie tout le temps d'être validé. Il a du mal, la personne a du mal à quitter quelqu'un, même un lieu. Elle est tout le temps, il y a une espèce de nostalgie de quitter quelqu'un ou un lieu. Et évidemment, la personne se dévalorise. Elle a très peur de la solitude et du rejet. C'est pour ça qu'elle reste, qu'elle peut rester avec un pervers narcissique. Il y a plein d'autres critères. Elle fait toujours passer le bonheur de l'autre avant le sien.
Ce qui est parfait dans une relation avec un pervers narcissique, finalement.
Exactement. Oui, exactement. Donc, lui, il est comblé, le pervers narcissique, puisque la personne arrive même, des fois, avec le pervers narcissique, à ne plus penser par elle-même, à faire tout ce qu'il veut. Et comme le pervers narcissique va tout le temps la dénigrer, la dévaloriser, elle peut très bien se laisser faire pour le garder, par peur d'être quittée.
En dernière partie d'émission, on pourra voir justement comment sortir, reconnaître une relation toxique. Pour revenir sur votre parcours, Annick, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes psychosomatothérapeute, c'est-à-dire que vous intégrez le corps somato à la thérapie, vous accompagnez les hypersensibles, les hauts potentiels, les dépendants affectifs et les victimes de la souffrance au travail. Combien de personnes souffrant de dépendance affective recevez-vous par an? Parce que c'est vrai que c'est difficile de chiffrer le problème.
Oui, je crois qu'on l'est tous plus ou moins dépendants affectifs. Simplement, quand ça devient pathologique, il y a des personnes qui viennent, qui consultent pour ça, parce qu'elles commencent à s'apercevoir qu'elles ont cette caractéristique, elles en souffrent, ou elles ont été victimes de quelqu'un qui était justement un pervers, ou en tout cas quelqu'un qui les dominait, elles se sont laissées faire. Donc ces gens-là viennent pour consulter, c'est clair, ils sont dépendants affectifs. Et il y en a d'autres, c'est en creusant, ils viennent pour une autre problématique, et c'est en creusant qu'on s'aperçoit que finalement, ils ont une dépendance affective qui est assez élevée.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on l'est tous, mais à des degrés différents. Et
oui,
si c'est un degré trop élevé, c'est pathologique.
Oui, c'est rare de ne pas l'être un peu quand même, on l'est tous un peu, mais c'est aussi une... Mais des fois, ça peut être pathologique. Quand on fait passer le besoin des autres avant les siens, etc., c'est pathologique.
Mais on l'est tous, plus ou moins, quoi qu'il arrive. C'est ça aussi que vous essayez de dire?
Oui, je veux pas être aussi catégorique.
Aussi catégorique.
Je pense que c'est... on a besoin de la valorisation de signes de reconnaissance, de la valorisation, de la validation des autres. Donc c'est vrai qu'on est souvent un peu dépendant du regard des autres.
Et combien de personnes souffrant de dépendance affective recevez-vous par an? Parce que c'est vrai que c'est difficile de chiffrer ce phénomène. On peut trouver des pourcentages complètement opposés sur Internet. Certains vont parler de 98%, que c'est quelque chose qui existe justement chez tous les patients, par exemple. Et de l'autre côté, on trouve le pourcentage de 2% de ce qui a pu être vraiment chiffrable. Donc finalement, on ne sait pas trop.
Oui, vous avez raison.
Est-ce que vous, c'est beaucoup de personnes viennent chez vous et souffrent de dépendance affective?
Oui, pas mal, pas mal. Même si au départ, enfin, j'en ai pas fait ma spécialité. Moi, je fais le lien aussi avec les gens hypersensibles qui souvent souffrent de dépendance affective, pas tous, hein, mais souvent en souffrent justement parce qu'ils sont très sensibles. Et alors, combien
Et
j'en ai?
naturellement, c'est devenu votre spécialité à force de recevoir des personnes qui souffraient de dépendance affective.
Disons que ça le devient parce que ben, je commence à être un peu à suivre des personnes comme ça. Donc à force, je me suis renseignée, je me suis un peu documentée, je me suis formée. Moi, au départ, c'est plutôt les hypersensibles au potentiel. Mais je vous dis, c'est
Oui.
souvent les hypersensibles au potentiel souffrent souvent de dépendance affective. Donc combien j'en reçois? Oh, je dirais que peut-être une personne sur deux, je reçois.
À une personne sur deux.
Ouais, à peu près, ouais, je dirais, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop évaluer ce que je vous ai tout à l'heure. C'est pas, il y a des gens qui consultent pour ça, il y en a d'autres qui, on s'aperçoit en discutant qu'il y a quand même une dépendance affective plus ou moins importante.
En fait, au fur et à mesure de la thérapie, vous vous rendez compte que beaucoup de choses rejoignent le problème de la dépendance affective, comme les personnes ayant un haut potentiel ou les hypersensibles.
Voilà, exactement.
Et quels sont les différents domaines pour lesquels il est possible de développer une dépendance affective? Parce qu'il y a des domaines qui sont connus, le plus connu est le domaine sentimental, des domaines aussi moins connus comme la dépendance affective au travail. Vous, vous en dénombrez combien, par exemple, de dépendances affectives?
Alors moi, je parlerai de la dépendance affective tout court. Et je pense que cette dépendance affective, alors elle est très exacerbée dans le couple, mais ça peut être aussi dans la famille. On peut être dépendant on peut être dépendant aussi de ses parents, on peut être dépendant de ses amis. Donc dans la vie privée et dans la vie professionnelle, on commence à parler aussi de dépendance affective au travail.
Oui.
On le voit dans la façon dont, enfin les signes qui peuvent alerter, c'est la façon de manager une équipe pour un manager, la façon de vivre le.
C'est-à-dire une façon de manager qui serait trop intense,
Voilà.
sévère.
Oui, peut-être, oui, ça dépend. En fait, il y a plusieurs profils de ce qu'on appelle le dépendant affectif au travail. Il y a plusieurs profils. Il y a celui qui, au contraire, va être tout accepté. Aura du mal à dire non, à accepter les remarques de sa hiérarchie. En fait, celui qui est dépendant affectif dans sa vie privée, en général, il est aussi dans son job, hein, parce que il a les mêmes réflexes.
Les mêmes
Ouais.
réflexes qui se
Voilà.
retrouvent dans le job. Donc quelqu'un qui va être dépendant affectif dans le domaine sentimental va, quoi qu'il arrive, l'être aussi au niveau professionnel. C'est un comportement qui se répète dans tous les domaines de la vie, si
Oui,
je
alors
comprends bien.
je ne veux pas être encore une fois catégorique parce qu'il peut y avoir des différences, mais disons que le dépendant affectif, oui, par définition, il a besoin de l'affection tout le temps, de marques de reconnaissance, d'affection. Il est très impacté dès qu'il a une remarque. Il est capable de tout accepter souvent par peur du conflit ou par peur de ne pas être apprécié. Il est souvent perfectionniste, il devance les demandes de ses collègues, il se surinvestit. Donc ça, c'est un premier profil. Et il y en a d'autres aussi, c'est un peu différent. Par besoin de reconnaissance, ils vont se comparer aux autres et même les dénigrer. Ils peuvent même aller jusqu'au contrôle et à la manipulation. Alors, c'est pas des pervers, hein, pour autant, hein, c'est pas tout à fait des pervers. Mais il agit un peu pour. Autant le pervers n'est pas empathique, lui il peut être empathique, mais agir pour fuir ses angoisses. Il va être peut-être un peu manipulateur, un peu contrôlant, uniquement parce qu'il est angoissé et ça n'a rien à voir avec une envie de détruire les autres comme peut faire le pervers.
D'accord. Donc finalement, il y a des traits de caractère entre le pervers narcissique et le dépendant affectif qui se retrouvent, qui sont les mêmes, comme notamment la carence affective dont on a parlé en début d'émission. Là, vous avez parlé des différents portraits pour la dépendance affective au travail. On va justement écouter le docteur Geneviève Craig en parler également et on se retrouve juste après.
Il y a des dépendants affectifs dans le boulot.
Oui, au boulot aussi. Affectif fait souvent penser à la vie sentimentale, mais l'impact de la dépendance affective, on la trouve également en entreprise.
Et le profil?
Le profil de ces gens-là en entreprise, ben, vous les voyez en général chez celui qui fait tout pour être apprécié, mais au-delà du besoin simple de reconnaissance, il en fait, il se surinvestit dans son travail, il en oublie sa vie privée, il n'y a aucun équilibre entre vie pro et vie personnelle. Donc il y a cette personne-là, il y a aussi deux autres types possibles, celui qui doute sans arrêt, qui contrôle tout, qui a besoin d'influencer, de manipuler, pour parvenir à ses fins ou pour pouvoir gérer ses peurs, gérer son angoisse, on va dire, de « et si jamais on remarquait que j'étais pas aussi bien que ça ».
Annick, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, tout à fait.
Alors, on vient d'écouter Geneviève Craig nous parler de la dépendance affective au travail, donc des différents portraits de personnes. Ça revient à ce qu'on disait avant, finalement. Quelles sont les techniques pour vous pour lutter contre cette dépendance ?
Alors, moi, ce que je fais d'abord, c'est je crois que pour guérir entre guillemets, mais il faut comprendre le schéma dans lequel on est, ce schéma de dépendance. Et il faut vraiment décider de s'en sortir, ce qui n'est pas du tout simple. Mais il faut arriver à prendre sa place, que ce soit dans le couple ou que ce soit au boulot d'ailleurs. Moi, je dis toujours à mes patients, il faut être patient. Il faut intégrer que cela va prendre du temps. C'est vraiment une blessure archaïque, c'est vraiment une insécurité de base. Donc on ne peut pas du jour au lendemain dire, ben voilà, j'ai trouvé la technique et puis je suis plus dépendant. Non, c'est un travail quand même à faire avec un thérapeute. Parce que le dépendant, il a mis en place des schémas répétitifs. Et là, il faut arriver à déjouer ces schémas. Et pour ça, il faut accepter qui nous sommes, nos limites, nos imperfections, nos contradictions.
Est-ce que cette dépendance, donc cette addiction, finalement, est reconnue comme une maladie mentale ?
Non, pas du tout. Alors moi, je ne suis pas psychiatre. Non, c'est pas une maladie mentale. C'est des caractéristiques.
Psychopraticienne, donc oui. Spécialiste de la thérapie.
Oui, c'est des mécanismes. Ça vient de nos peurs archaïques, nos premières.
C'est-à-dire qu'il n'existe pas de traitement.
De traitement.
Je veux dire médicamenteux.
Non, je crois pas, non. Mais la thérapie, en revanche, autant sur le pervers, c'est très dur de proposer une thérapie parce qu'il se remet pas en question, autant celui qui a envie de s'en sortir, de sortir de la dépendance, encore une fois, c'est long, mais il y arrive.
Alors, ce n'est pas reconnu comme une maladie mentale. Par contre, du coup, les pires cas de dépendants affectifs, selon mes recherches, c'est quand même le suicide, la dépression mentale pendant un certain nombre d'années, le développement d'une relation avec un pervers narcissique, donc une relation toxique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un problème qui est reconnu.
Oui, c'est ça.
Au sens médical.
Oui, et c'est vrai que ça peut... Alors, je ne crois pas, mais encore une fois, je ne suis pas psychiatre, je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas que ça soit une vraie pathologie au sens médical. Mais c'est vrai que ça peut aller, bien sûr, ils peuvent aller jusqu'au suicide. Et il y a beaucoup de dépendants affectifs qui développent des dépressions, surtout s'ils sont dans une relation toxique qui les fragilise.
Donc, pour vous, ce n'est pas une maladie mentale, vous avez dit ?
Oui, non, c'est pas une maladie mentale, mais une... mais c'est vrai que ça peut être une grosse souffrance, ça peut engendrer des dépressions, effectivement.
Et quels sont les signes de la dépendance affective ? Comment peut-on la reconnaître ?
Alors, je crois que c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est on voit quelqu'un, la personne déjà n'a pas confiance en elle, elle ne s'aime pas. Elle fait passer le bonheur des autres avant le sien. Il y a plein de critères comme ça. Alors ça, c'est elles qui le disent. Hein, elles ont vraiment une impression de vide, une espèce de manque qu'elles n'arrivent pas à combler par eux-mêmes. Et donc, elles comptent sur les autres, leurs partenaires, leurs amis, leurs collègues, pour les combler.
Et dans les patients ou les patientes que vous recevez, vous retrouvez tous ces critères ? C'est comme ça que vous identifiez une dépendance affective.
Oui, il y a plusieurs critères. Et puis, donc, au bout d'un moment, quand quelqu'un me dit, une personne me dit qu'elle n'arrive pas à quitter son conjoint parce qu'elle a trop peur de la solitude et qu'elle veut rester et qu'elle n'arrive pas à le quitter alors qu'elle voit bien qu'elle est dans une relation toxique, ou quelqu'un qui tombe amoureux d'une personne qui n'est pas libre et qui va en faire une dépression. Oui, c'est vraiment de la dépendance affective.
Alors, existe-t-il une dépendance affective, par exemple, à la famille ou aux animaux? Quelqu'un qui ne voudrait pas quitter, par exemple, le foyer familial, ou quelqu'un qui ne pourrait pas partir en vacances à cause de ses animaux. Est-ce que dépendance affective peut aller jusqu'à ces domaines-là, par exemple?
Ah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a vraiment, on peut avoir une dépendance affective. On ne parle pas de dépendance affective aux parents, par exemple, mais c'est vrai que les tanguis, ceux qui restent chez leurs parents quand ce n'est pas pour une raison économique, ou des gens qui sont très, très en lien avec leurs parents, qui n'ont pas coupé le cordon, qui sont vraiment dans une relation encore, à l'âge adulte, ils sont encore dans une relation enfant-parent, un peu infantilisante. On peut pas, ouais, c'est vrai, de la vraie dépendance affective à la famille.
Et la clé, c'est reprendre confiance en soi.
Oui,
c'est le traitement préconisé, finalement.
Oui, reprendre conscience en soi, travailler sur ses schémas déjà, travailler vraiment sur ses schémas et voir comment on fonctionne. Déjà, bien se connaître, ça c'est important de bien se connaître, de voir comment on fonctionne. Et comment on peut améliorer les choses. Il y a plein de petites techniques. Moi, j'utilise par exemple le psychodrame. Parce que comme ça, le patient peut revivre. Alors ça, c'est plutôt en groupe, mais ça peut se faire aussi en cabinet à deux. L'idée, c'est de revivre ses relations avec ses parents. Parce que bon, c'est souvent une blessure donc archaïque, un rapport aux parents. Et comme la personne a certainement un compte un peu à régler avec ses parents, il recherche inconsciemment des partenaires qui présentent un peu les mêmes caractéristiques.
Les mêmes caractéristiques que sa famille. On va pouvoir justement parler de la relation toxique. Comment peut-on reconnaître si une relation est toxique, une relation toxique? Donc on va pouvoir passer à la dernière partie de votre émission, chers auditeurs, et voir ce sujet avec vous, Annick. Donc première idée, il ou elle contrôle votre relation avec les autres.
Donc, je voulais que je vous dise si c'est vrai, si c'est faux.
Si justement, c'est un des critères, un des signes oui. d'une oui. relation toxique.
Si l'autre, notre partenaire contrôle la relation avec les autres. Oui. Ah oui, oui, complètement.
C'est vraiment un des signes les plus graves, effectivement.
Ah, oui, c'est le signe le plus grave, oui. Quand on commence à perdre des amis parce qu'il dénigre tous nos amis, fait le vide autour de nous. Il ne supporte pas que que l'on aille prendre un pot avec une amie sans sa permission, ça va jusque-là. Hein. Quand on est obligé d'envoyer un texto pour dire à quelle heure on est rentré dans la salle de sport et à quelle heure on va en ressortir. Oui, c'est des gros contrôlants et vraiment, c'est la première.
Le premier signe le plus grave.
Le premier signe, ouais. C'est vraiment un signe, ça.
Deuxième idée, vous ne faites plus rien tout seul.
Oui, c'est vrai aussi.
Ça, c'est le signe de la dépendance affective, c'est-à-dire quand même le signe le plus important, c'est-à-dire ce besoin d'être accompagné dans chaque acte de la vie quotidienne.
Oui, tout à fait. C'est un peu culpabilisant, l'autre va nous dire... qui veut pas être seul. Enfin bon, c'est vraiment, être une impression de fusion, vouloir être dans une espèce de fusion, mais un peu malsaine. Et l'autre s'impose dans toutes nos activités. Il essaie de nous culpabiliser si on fait quelque chose sans lui, etc. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Évidemment, il est important de passer du temps en couple, mais c'est aussi très sain d'avoir chacun ses activités et son petit jardin privé, secret.
Son petit jardin secret.
Tout en étant en confiance. Hein.
Troisième idée, il ou elle est très jaloux.
Alors, je dirais faux, parce que tout le monde peut être jaloux au sein d'un couple.
Tout à fait.
Mais évidemment que si la jalousie devient envahissante et
toxique,
ça devient toxique, bien sûr.
Quand la jalousie est toxique, du coup, la relation elle-même devient toxique. Complètement, c'est ça que vous voulez nous dire.
Complètement, oui.
Quatrième idée, il ou elle contrôle votre apparence.
Ah oui, c'est vraiment totalement vrai. Le but d'une personne toxique, c'est souvent de diminuer la confiance de l'autre, un peu pour paraître indispensable. Et c'est vrai qu'ils sont très très bons pour ça, notamment les pervers narcissiques. Et la personne qui, elle, dépendante affective, qui n'a pas confiance en elle, elle va souvent se plier aux ordres du contrôleur, là, de celui qui contrôle l'apparence.
Oui.
Et ça peut être des bêtises, hein. Ça peut être le mari qui ne veut pas que sa femme porte telle robe, ou lui fait des réflexions en lui disant qu'elle est grosse.
Des discriminations par rapport au poids, par rapport à la taille.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment vrai, oui.
Donc, si votre partenaire vous critique un petit peu, on est bien d'accord que c'est normal. Là, on parle vraiment de critiques qui seraient toxiques et qui dérangeraient vraiment le bien-être de la personne.
Complètement, oui. Puis une envie de la dénigrer pour la rabaisser. En fait, il rabaisse. Il souffle le chaud et le froid souvent aussi. Ils vont faire un compliment, puis après il y aura un défaut. Juste après, ils vont pointer un défaut. Puis l'apparence est très importante pour eux, puisqu'ils sont vraiment dans une espèce d'image sociale. Il faut que l'autre, il faut vraiment qu'ils soient fiers de l'autre. Pour eux, c'est important comment la personne qui les accompagne sera habillée. L'apparence est très importante.
L'apparence.
Parce qu'ils sont dans ce narcissisme. Il faut être parfait. Il faut être. Ils sont beaucoup beaucoup dans l'apparence.
Beaucoup dans l'apparence.
Et dans le social aussi, c'est jamais les mêmes. Dans l'intimité, ils peuvent être souvent tristes, arrogants, pas sympas. Et à l'extérieur, souvent, c'est des personnes qui ont énormément de charisme et qui rayonnent, très souvent.
Donc, méfiez-vous des apparences.
Tout à fait.
Comme on dit. Merci beaucoup, Annick Rosas, pour le temps que vous avez accordé pour cette interview. Merci d'avoir honoré l'invitation pour la 24e émission de Espérance Féminine. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Annick, à bientôt.
À bientôt, Carole. Merci beaucoup.
Merci à vous. À très vite, chers auditeurs. Bonne suite des programmes sur Fréquence Protestante.
No time for no lies. No way.